Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Aujourd'hui, nous allons voir combien il est important de connaître le véritable évangile, le message de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, tel qu'il a été enseigné par le Christ et par ses apôtres. Que feront ceux qui naîtront dans la famille divine? Que leur réserve Dieu pour toute l'éternité? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu sont héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Toujours au sujet de Jésus-Christ, Paul ajoute « Son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. » Jésus est le premier homme à être né dans la famille divine, et les véritables chrétiens suivront son exemple lors de la résurrection des justes, quand il reviendra dans toute sa puissance et toute sa gloire pour établir son royaume sur terre. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes ses fils engendrés. Par contre, tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu, qui ne vivent pas en conformité avec les lois divines, n'ont pas le Saint-Esprit et ne sont pas chrétiens. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Paul poursuit avec une promesse très importante. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Ce passage révèle que si nous avons en nous l'Esprit de Dieu, cette puissance nous ressuscitera d'entre les morts, tout comme ce fut le cas pour le Christ. C'est alors que d'enfants engendrés, nous deviendrons de véritables fils en naissant au sein de la famille divine. C'est lors de cette nouvelle naissance que nous prendrons possession de notre héritage. En effet, nous sommes co-héritiers de Christ à condition qu'au cours de cette vie, nous acceptions de souffrir avec Christ, de résister comme Christ a résisté à la tentation, afin d'être glorifiés comme il l'est maintenant. Paul ajoute « Or, j'estime que les souffrances du temps présent ne méritent pas d'être comparées à la gloire qui doit se révéler pour nous. En effet, c'est avec un ardent désir que la création, et il s'agit de toute la création, de l'univers entier, attend cette révélation, cette résurrection des enfants de Dieu. Car la création tout entière a été assujettie à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'y a assujettie. Elle espère être délivrée, elle aussi, de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, et qu'elle est comme en travail. Il n'en est pas ainsi pour elle seulement, mais nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Nous, les hommes que Dieu a appelés au salut au cours de la présente époque, nous qui avons reçu les prémices, un acompte, les arts de l'Esprit, et nous attendons l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Ceci se réalisera lorsque les convertis, qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, naîtront en tant que fils par une résurrection. Ils jouiront dès lors de l'immortalité au sein de la famille divine. C'est alors qu'ils verront l'univers entier placé sous leur domination. Pourquoi l'univers entier, toute la création, devrait-elle attendre avec un ardent désir la naissance de tous ses fils de Dieu au sein de la famille divine? Relisons ce que Paul a écrit. La création, en effet, a été soumise à la vanité. Toutefois, elle garde l'espérance, parce que la création, elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption en vue de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que, jusqu'à maintenant, toute la création gémit ensemble dans les douleurs de l'enfantement. Actuellement, l'univers n'est pas en mesure de soutenir la vie. La corruption qui est la sienne est un état de dégénérescence qui n'existait pas au moment de sa création, car la Bible nous montre que ce que Dieu a créé était parfait et ne devait pas être désert. Il est certain que quelque chose a provoqué cette dégradation. La terre était tellement radieuse au moment où Dieu la créa que les anges eux-mêmes éclatèrent en chants d'allégresse et poussèrent des cris de joie. La création, l'univers entier, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, écrit l'apôtre Paul, mais elle garde l'espérance d'être libérée de la corruption en ayant part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Lorsque les êtres humains convertis naîtront au sein de la famille de Dieu, ils posséderont alors la puissance et la gloire divine. Ils seront à même d'œuvrer comme Dieu l'a fait après que la terre fut devenue informe et vide. Dieu s'est vu dans l'obligation de renouveler la face de la terre qui avait été détruite par la rébellion d'un tiers des anges qui, menés par Satan, voulurent conquérir le trône de Dieu. De l'homme, Paul écrit, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » En effet, en lui soumettant toutes choses, et cela comprend évidemment l'univers entier, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses, l'univers entier, lui soient soumises. Le royaume de Dieu est connu pour l'instant comme étant le royaume des cieux, parce qu'il est en préparation dans les cieux. À ce royaume, ou famille divine, viendra se joindre la seule Église de Dieu, composée de tous les enfants engendrés, qui naîtront au moment de la résurrection au sein de cette famille. Cette grande famille n'habitera pas seulement la terre, mais sa demeure s'étendra à tout l'univers. L'apôtre Pierre écrit « Dieu nous a régénérés pour un héritage lequel vous est réservé dans les cieux. » Cet héritage, cette récompense est réservée dans les cieux, mais cette récompense n'est pas le ciel. Comme il l'a promis, le Christ l'amènera avec lui lors de son retour. Il donnera alors à ses élus autorité sur les nations. Mais cet héritage va beaucoup plus loin que la terre puisqu'il comprend toutes choses et ceci comprend automatiquement l'univers entier. Comment pouvons-nous entrer dans le royaume de Dieu? Voilà une question importante à laquelle nous devrions tous réfléchir. Abraham nous a montré le chemin. Ce qu'il a fait, nous devons le faire à notre tour. Abraham crut à Dieu. Il avait la foi pour vivre comme Dieu le lui avait demandé. Il s'est donc qualifié pour se trouver parmi ceux et celles qui régneront dans le royaume qui incorporera l'univers entier. L'apôtre Jacques écrit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Avant de donner à quelqu'un l'occasion de gouverner sur les autres, de gouverner sur toute sa création, Dieu doit s'assurer que cette personne a suffisamment de foi pour se laisser gouverner par lui. Dieu se forge un royaume de personnes obéissantes qui naîtront au sein de sa famille. Son royaume sera alors composé de nombreuses personnes. Puisqu'Abraham a montré à Dieu qu'il voulait se soumettre à lui, Dieu lui a permis d'entrevoir la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il est question ici de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, une ville spirituelle qui est en préparation dans les cieux et qui descendra sur cette terre lorsque sa surface aura été purifiée par le feu. Cette ville deviendra la capitale de l'univers entier. C'est à ce moment-là que tous seront véritablement unis à Dieu. C'est à ce moment-là que se réalisera pleinement ce que le Christ a demandé à son Père pour ses disciples. afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Lorsque la nouvelle Jérusalem sera descendue sur cette terre, nous verrons ce que l'apôtre Jean écrit. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. La capitale de l'univers aura une forme pyramidale, dont la hauteur et chaque côté auront 2 000 kilomètres environ de long. Ce qui se passera à cette époque dépasse notre imagination. En effet, l'apôtre Jean ajoute, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Le véritable évangile que Jésus a apporté et a enseigné se rapporte au royaume de Dieu. Cet évangile révèle que l'univers entier sera régi par tous ceux qui, s'étant repentis de leur vie passée pour vivre en conformité avec les lois divines, feront partie du royaume qui sera composé de Dieu le Père, du Christ et de tous ceux qui seront nés au sein de leur famille. Dieu est avant tout créateur. Il est souverain et il est l'éducateur qui révèle une connaissance qui échappe à l'esprit humain. Souvenez-vous qu'il y a deux évangiles. Un est conforme à l'enseignement du Christ et des apôtres. Le second se contente d'annoncer la personne du Christ, mais d'un Christ que l'on continue à faire passer pour un menteur en prenant le contre-pied de ce qu'il a affirmé. Ceux qui décident de faire la volonté de Dieu, de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui persévéreront jusqu'au bout et qui vaincront, pourront naître au sein de la famille de Dieu et se voir octroyer une puissance infinie. Leur territoire sera l'univers entier. À ce moment-là, chacun créera selon les directives et les instructions de notre Père Céleste, et chacun règnera pendant toute l'éternité. Les chapitres 21 et 22 du livre de l'Apocalypse raconte qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que ceux qui se trouveront dans le royaume auront choisi la voie divine, qui est celle du bien. Chacun sera totalement rempli des différentes qualités du fruit de l'esprit et exprimera un amour profond, une joie profonde, une paix profonde. Ils envisageront de nouveaux projets créateurs avec l'accord de Dieu. Tous ces êtres spirituels, tous ces membres de la famille de Dieu ne connaîtront jamais la fatigue, ne seront jamais à bout de force. Au contraire, ils seront remplis d'énergie, de vitalité, de vie radieuse et exubérante de force et de puissance.